chaste. Nos cerveaux excitent à l'envie pour nous défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux de beau pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débat du jour qui commence avec au programme deux auteurs que nous aimons bien dans cette émission. Il s'agit de Florence Sévos qui nous revient avec un superbe roman paru aux éditions L'Olivier qui s'intitule Un perdant magnifique, et de Laurence Tardieu pour un récit qui est paru chez Lafon et qui s'intitule Vers la joie. Voilà pour le programme de ce jour. On va retrouver tout de suite donc Florence Sévos pour un entretien qui a été fait aux éditions L'Olivier, entretien que j'ai particulièrement apprécié. Je remercie encore Florence Sévos de la richesse de cette rencontre. On la retrouve tout de suite, un perdant magnifique chez L'Olivier. C'est toujours pour Radio Libertaire, 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. C'est l'émission Idéaux et débat, avec le plaisir de retrouver aujourd'hui en vrai Florence Sévos pour un très très beau livre qui est paru aux éditions de L'Olivier et qui s'intitule « Un perdant magnifique ». Alors c'est un très beau titre. Quand j'ai découvert le titre, je me suis dit et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce que c'est la question qu'on se pose, il est accrocheur ce titre. Et après, quand on a lu le livre, on se dit, bah, c'est exactement ça.
Alors ça, c'est grâce à mon éditeur, Olivier Cohen. Parce que c'est lui qui a trouvé ce titre. Et moi, j'avais des idées qui étaient voilà, plus floues, justement, qui annonçaient moins la couleur. Et puis ça me faisait bizarre un peu, ce titre, qui a quelque chose... voilà, d'un tout petit peu un peu flamboyant quand même. Et donc du coup j'étais pas très à l'aise, j'avais l'impression de sortir avec du rimmel et des talons hauts et des paillettes. Mais effectivement Olivier il disait que c'était bien d'avoir un titre qui donnait une image du livre qui disait donc en très peu de mots, c'est la fonction du titre, ce qu'il y avait à l'intérieur.
Oui, c'est vrai que c'est en très peu de mots ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est ça qui est intéressant, c'est le contraste qu'il y a entre ce titre qui est très affirmatif, et le flou du personnage à l'intérieur. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette notion-là, d'avoir cette différence entre le livre et le titre.
Et oui, et c'est une vraie différence, parce qu'en fait, Jacques, le personnage principal, ne se voit pas du tout comme un perdant, à aucun moment de son existence. Lui, il se voit toujours comme un gagnant, et toujours comme un gagnant à venir. Et en fait, c'est un joueur qui passe son temps à poser sur la table des mises qu'il n'évalue pas toujours. Et donc, il met sa famille, ses proches, parfois dans des situations un peu extrêmes. Mais il va finir aussi par en fait miser sans s'en rendre compte jusqu'à sa propre existence.
Alors, oui, ça c'est le personnage de Jacques, mais ce qu'il faut préciser pour nos auditeurs qui n'ont pas lu le livre, c'est que ce n'est pas lui qui nous raconte son histoire. C'est Anna qui, à l'époque où ont lieu les faits, est une adolescente. Elle a 16 ans. Les éléments tangibles du livre, ce sont les lieux, la Côte d'Ivoire et le Havre, deux endroits très précis, l'époque, les années 80, parce qu'on a les références aussi bien musicales que cinématographiques, et tout le reste, c'est le récit d'Anna, c'est la manière qu'elle a eu de vivre cette histoire. Et là, et c'est intéressant pour le lecteur, vous jouez avec les différents moments, les différents séjours de Jacques, ses allées, ses retours, en avant, en arrière, à tel point que quand on lit, on se dit « Ah bah oui, il y a quand même une confusion dans cette famille, c'est le moins qu'on puisse dire. » Et vous la rendez palpable. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi votre écriture.
Wow, merci. Oui, en fait, il y a une... En quelque sorte, c'est rythmé par les Noëls que Jacques vient passer à la maison. À une époque, ils ont habité ensemble, Jacques, la mère, et les deux belles-filles. Il a tout fait pour les faire venir là où il travaille, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il a fait des aménagements somptueux dans la maison qu'il habitait pour les accueillir.
Extrême.
Et alors, ça n'a pas tenu la route. Elles ont souhaité revenir dans leur pays et peut-être ne plus vivre tout le temps avec Jacques. Et donc, il fait des séjours. Parfois, c'est la mère qui part le voir passer un mois ou plus avec lui, et les deux filles restent seules. Et en fait, voilà, le livre est d'une sorte de... Ça raconte, je crois, à la fois la rencontre entre ces deux jeunes filles et cet homme. Et elles vont assister à sa ruine, à sa chute. Et elles vont passer par plein de sentiments différents, contradictoires. Parce que... Voilà, c'est une rencontre, c'est le hasard de la vie qui les a mis en présence à travers cette rencontre amoureuse entre leur mère et cet homme. Et en même temps, il va y avoir une espèce d'adoption mutuelle. Oui. Et ça m'importe beaucoup parce que j'en ai vécu moi-même beaucoup des rencontres comme celle-là. Et qu'elles m'ont énormément enrichi. Je suis très sensible à cette notion, à ce thème de l'adoption mutuelle. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ces liens qui ne sont pas exactement des liens familiaux. En tout cas, pas de strictement de nature familiale, qui sont des constructions par affinité et aussi par qu'est-ce que ça tisse comme sentiment de tout à coup de vivre ensemble.
you knocking at my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. Song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun.
Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des liens, j'allais dire, contraints, puisque pas des liens biologiques. Le père biologique des deux filles est évoqué dans l'histoire, parce qu'au départ, elles vivent chez leur père, mais elles vont vouloir en partir, parce que ce qui se dégage de cette famille, de ce personnage du père biologique, c'est d'une certaine manière sa fadeur par contraste avec Jacques, et que justement le côté hors norme de Jacques crée aussi son intérêt, et c'est toute l'ambivalence qu'il va y avoir dans tout le livre, que ce soit pour le personnage de la mère ou pour le personnage des filles. Il est totalement barré, mais il est fascinant. Et il est fascinant et attachant. Et comme vous le dites, ce lien qui va se créer entre les filles, quoi qu'elles sont différentes, mais en tout cas entre Anna et Jacques, c'est un vrai lien. Il va leur rendre cet attachement. Et ça, c'est très très important. Ce n'est pas un lien unilatéral. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre
eux. Et peut-être même c'est lui qui commence.
Qui va générer ça.
Oui, qui va générer ça parce que il a envie de cette famille-là. Il n'a jamais été en contact avec des enfants, et tout à coup, voilà, il voit ces deux adolescentes et il les trouve extraordinaires. Il est subjugué, mais comme on peut tous être subjugués par je sais pas, l'énergie, l'inventivité de l'enfance, et voilà, et donc il va leur accorder une importance. Il va les regarder d'une certaine façon, et elles, ben, ça va leur... Elles en sont toutes chamboulées, en fait. Mm-hmm. Parce que recevoir l'attention de ses parents, c'est normal, enfin, en tout cas, on peut l'espérer. Mais un autre adulte qui, tout à coup, vous regarde avec cette attention-là, vous considère. Et au point, puisque quand ils se connaissent à peine, elles ont fait un premier séjour là-bas en Côte d'Ivoire.
Les lettres.
Leur naissance, et elles écrivent chacune une petite lettre de remerciement. Et lui leur écrit à chacune une lettre différente de 2 pages. Et elles en sont stupéfaites.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, bon, elles ont 2 ans d'écart, toutes les deux. Et souvent, ça arrive dans les familles, dans le monde des adultes, c'est les filles. Les enfants, il y a une espèce de dyade des sœurs, et lui va vraiment les prendre indépendamment, c'est-à-dire qu'il va faire des lettres très très différentes à l'une et à l'autre, et justement cette distinction les rend chacune uniques, oui, d'une certaine manière, c'est très très important.
Oui, et d'ailleurs il va tisser une relation différente avec, mmh. avec chacune, hein, où il y a des choses qui se retrouvent, parce que par ailleurs, il faut quand même dire que c'est quelqu'un de, voilà, de très autoritaire, de très difficile, qui établit des règles, etc. Mais il va avoir un lien avec chacune. Avec Anna, il va avoir de longues conversations et jouer aux échecs. Irène, il va lui apprendre des chansons parce qu'il trouve qu'elle a une très jolie voix. Et elle aussi, voilà, elles ne seront pas forcément toujours au même diapason l'une l'autre avec ce beau-père, parce qu'en plus c'est très changeant dans leur cœur. Il y a des moments où elles ont tout simplement envie qu'ils sortent de leur vie, qu'ils n'existent plus. Et puis, par exemple, Irène, qui est quand même très. Qui a moins bon caractère qu'Anna, qui est plus violente et qui s'oppose plus à l'autorité de Jacques, hein, au moment où, à un moment, la mère va dire « je jette l'éponge, je vais le quitter », tout à coup, c'est Irène qui dit « mais tu peux pas faire ça ».
Oui. Oui, oui, il y a ça, il y a effectivement le côté fluctuant, mais c'est le côté fluctuant et l'ambivalence qui règne en permanence dans le livre, c'est-à-dire qu'on passe d'un sentiment à un autre, d'un ressenti à un autre. Mais ce dont j'ai l'impression aussi, Florence Sévos, dans Un perdant magnifique, donc paru aux éditions de l'Olivier, c'est qu'on voit aussi tout le travail à l'œuvre de l'adolescence, parce que Irène a 2 ans de plus.
Oui.
Qu'Anna, et elle est déjà passée à autre chose. Mmh. Effectivement, elle a cet attachement pour Jacques, elle a mais sa vie n'est plus dans la famille.
Oui, c'est vrai.
Elle va introduire un étranger dans la maison, à contrario des accords passés entre les deux sœurs, et puis elle va partir. Donc elle est déjà dans une dynamique complètement différente.
Oui. Et Anna, elle reste, et elle est le témoin de tout ça, et aussi de comment vit sa mère, et elle a bien conscience qu'elle n'a pas assez d'empathie pour ce que sa mère endure avec les problèmes financiers, puisque Jacques est très généreux, mais surtout extrêmement... il dépense un argent qu'il n'a pas, alors qu'il est déjà à découvert. Il achète des meubles, il achète un piano pour Irène, ou parce que tout simplement il faut absolument qu'il y ait un piano dans cette maison, alors que voilà, ils ont à peine de quoi chauffer la maison en hiver. Et Anna, elle assiste à tout ça avec un peu de distance, elle s'en veut de cette distance par rapport à sa mère. Elle sent bien que pour elle ça n'a pas tout à fait la même réalité, les problèmes financiers par exemple, c'est pas ça qui l'intéresse. Je voulais revenir sur quelque chose, parce que vous parliez de leur père tout à l'heure, et je crois qu'elles ont toutes les deux une culpabilité par rapport à leur père, parce que parce qu'elles ont noué ce lien particulier avec Jacques, et c'est un peu comme une trahison de leur père. Et puis aussi elles s'aperçoivent qu'elles ont envie de protéger Jacques, parce que Jacques a l'air d'un fou. Souvent dans la vie quotidienne, Jacques est ridicule. Elles ont honte de lui. Mais elles ne veulent pas que leur père soit au courant. Elles n'ont pas envie de faire une réputation à Jacques. Elles veulent protéger en quelque sorte le secret de la famille. Et le secret, c'est cet homme qui fait un peu peur, qui a l'air fou et qui est extrêmement encombrant.
il t'évite de courir vite et il te dira.
Même si à certains moments, ils se retrouvent tous ensemble. Et ça donne d'ailleurs des scènes de repas absolument incroyables, avec des concours pour celui qui ira payer en premier, avec des grands moments de mal-être des deux sœurs, justement,
ouais.
dans ces occasions-là.
Oui. Mais voilà, il y a plein de choses. Elles ne vont jamais révéler à leur père que des huissiers sont venus.
Et qu'il n'y a pas de sous.
Qu'il fait froid dans la maison, et ça, la mère n'en parle pas, et elle non plus. Alors, elles ne sont pas en danger, hein, elles ne manqueront jamais. Voilà, elles font 3 repas par jour, et elles touchent une pension de leur père, donc elles ne manquent pas de l'essentiel, mais le reste, elles le cachent.
Oui, elles mettent quand même les anoraks pour le petit déjeuner au mois d'avril, et elles se voient ponctionner leur livret de caisse d'épargne pour payer les billets d'avion.
Pour acheter un billet d'avion pour que Jacques puisse revenir.
Et Jacques reviendra, et on va le voir revenir dans des conditions très, très différentes, parce qu'une fois il sera magnifique, une fois il sera perdant. On ne dévoilera pas tout le livre, bien sûr, Florence Sévos, pour que les auditeurs puissent le lire. Mais ce qu'on ressent de ce personnage, c'est effectivement son côté excessif. Et quand j'évoquais le flou, c'est qu'on n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait comme affaire. Il loue des machines en Afrique, enfin, il traite des choses, on ne sait pas trop quoi. Et on se dit qu'il a un petit côté Don Quichotte à l'attaque des moulins à vent, à se créer sa propre histoire.
Oui, c'est très vrai. C'est un genre de metteur en scène. Mmh. Il met en scène sa propre vie, il met en scène la vie de toute la famille, et il est toujours dans une espèce de fiction qu'il est en train d'inventer. Et peut-être c'est ça aussi qui plaît
à la mère aussi.
À la mère et aux filles, parce que et les filles deviennent un petit peu les romancières de tout ça dans leur observation.
Et les romancières et les personnages, on leur donne à vivre,
oui,
une histoire.
Il fait d'elles des héroïnes, ouais. Un petit peu, parce que par exemple au moment où, enfin je veux pas trop déflorer, mais au moment où il est question que les huissiers viennent prendre tout ce qu'il y a dans la maison, pour la mère c'est une catastrophe de plus, une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, mais pour les filles qui ne se rendent pas bien compte, c'est une situation extrêmement romanesque.
C'est extraordinaire.
Elles sont presque assez flattées de s'imaginer les héroïnes de cette situation, un lit pour chacune, une table et une chaise pour chacune, Et la maison vide, est-ce qu'il va rester des rideaux aussi ou pas? Est-ce
qu'il y aura du papier dans les toilettes?
Ouais. Est-ce qu'on va leur prendre la télé? C'est une grosse question pour elles. Mais elles éprouvent une espèce d'exaltation à cette vie tellement étonnante.
Mais cette exaltation, tout le monde la ressent et tout le monde la vit. Et c'est ça qui fait que ça continue tant bien que mal jusqu'à la fin. C'est aussi la situation de la mère qui a besoin, malgré toutes ses difficultés, malgré le fait qu'elle dit « je vais divorcer », malgré tout ce qu'elle peut connaître comme désagrément à la suite du comportement de Jacques, quelque part, c'est ça qu'elle recherche aussi, d'une certaine manière.
Oui. On voit que c'est quelqu'un qui a une espèce de combativité. Dès qu'elle trouve un peu d'espoir pour s'accrocher, hop, elle l'enfourche comme un cheval.
Oui, mais cette relation la valorise.
Oui, et aussi elle aime sûrement la difficulté. À un moment, on apprend qu'elle a de l'admiration pour Napoléon. Mmh. Voilà, elle aime ce qui est exceptionnel. Elle aime que la vie soit voilà, plus grande, plus forte.
Alors, Florence Sévaux, Un perdant magnifique, paru aux éditions de l'Olivier. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans ce roman, c'est ce qu'il en est des corps. Parce que on est à la période de l'adolescence pour les deux jeunes filles. D'ailleurs, l'une d'elles se servira du fait qu'elle a ses règles pour ne pas faire les contraintes imposées par Jacques. Il y aura un soupçon de grossesse, un doute sur une grossesse possible de la mère. Là aussi, intervention du rapport au corps. Et pour Jacques, il y aura la maladie qui va venir, qui va s'inviter, qui ne sera pas prise en compte d'une certaine manière. On a l'impression qu'on est tellement dans un monde de fiction qu'à aucun moment cette fiction peut s'incarner dans les chairs. Enfin, c'est propre de s'incarner d'ailleurs. Mais...
Oui, c'est vrai. En fait, moi j'ai l'impression que l'incarnation, elle ne venait que avec la maladie de Jacques.
Non, il n'y a pas de chair.
Quand même, quand elle le voit avec ses chevilles toutes.
Oui, dans la maladie.
Avec le diable. Oui, c'est la maladie.
Ouais, c'est la maladie, mais.
C'est la maladie, oui.
Mais il n'y a pas cet élément-là. C'est vrai que dès qu'elle dit j'ai mes règles, ça s'arrête, on n'en parle plus.
Oui. Mais Jacques lui-même est d'une pudeur extrême et elles aussi, elles sont très pudiques avec lui.
Oui, il n'y a pas. Il ne se touche pas, il n'y a pas cette présence-là. Alors, ils vont manger ensemble au restaurant, mais ça fait partie aussi, d'une quelque part, de l'histoire.
Non, mais vous avez raison. Alors, est-ce que c'est une réserve de ma part? Je crois que c'est, à part un livre, peut-être, ou d'autres choses, c'est vrai que moi, je ne parle pas énormément du corps et du côté tactile, peut-être. C'est très possible que ce soit... que ça vienne de moi.
D'accord. Alors, il y a un épisode qui est aussi particulier parce qu'il est unique pour la narratrice, pour Anna. C'est un moment où, sa mère étant dans une situation financière très, très difficile, elle va envoyer cette jeune fille de 16 ans, toute seule, à Rome, pour réclamer de l'argent à une ancienne connaissance. Et là, avec ce passage-là, on se dit que finalement, entre Jacques et la mère, on comprend qu'il y a une accointance.
Oui, parce que c'est une idée d'un un peu folle.
Oui, tout à fait.
Et alors, normalement, elle devrait envoyer l'aînée, mais comme la cadette, d'une part, parle un tout petit peu italien et qu'elle connaît mieux cette famille, parce que il y a quelque temps, elle a fait un séjour chez eux à Rome et qu'elle a gardé les enfants. Alors elle lui fait une autorisation de sortie de territoire pour mineur, pour la lancer dans un périple quand même très
très improbable.
Ouais, très improbable. Et du coup, c'est comme... C'est drôle parce que quand j'écrivais ce passage, j'avais l'impression d'écrire un rêve éveillé,
ouais,
une sorte de cauchemar. Et j'aimais bien essayer de rentrer dans la réalité des détails de ce cauchemar, depuis voilà, le voyage en train, jusqu'à l'arrivée sur place. Est-ce qu'elle va revoir cet homme qui en, pour qui d'ailleurs elle nourrissait un sentiment particulier et qui a emprunté de l'argent à son beau-père, est-ce qu'elle va le revoir ou pas? Voilà, et tout à coup elle est envoyée comme ça en émissaire dans cette ville étrangère. Et là aussi, en fait, elle a l'impression d'être un personnage de,
ouais,
de fiction.
Complètement onirique, cette scène est complètement onirique et en même temps très... Là, on la sent complètement avec une distorsion temporelle aussi un peu particulière parce que comme vous le dites, tout se fait dans la foulée, dans la continuité, à tel point qu'on perd le sens du temps, d'une certaine manière.
Oui, oui. Et en fait, elle passe qu'une journée à Rome et c'est comme un... Enfin, et elle passe par tout un tas de sensations différentes. Et c'est comme un peu une journée au bord d'un gouffre.
Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Elle est ballottée toute la journée, que ce soit par un chauffeur de taxi, par une hôtesse d'accueil, par ce téléphone qui lui bouffe ses pièces. Oui, on a quelques repères comme ça. Et... on ne sait pas du tout ce qu'elle ressent parce qu'elle est complètement, elle s'efface complètement.
Oui, et elle a peur d'échouer dans la mission, ouais, que sa mère lui a confiée. Et puis en même temps, elle ne l'exprime pas vraiment, mais elle a comme une petite révolte parce que tout à coup, elle a peur que cet homme, qu'elle a le plus grand mal à retrouver, elle se dit, et s'il était mort, et elle ne voudrait pas s'être lancée à la poursuite d'un mort. Donc elle est vraiment dans une situation un peu vertigineuse.
Alors, ce qui est intéressant également, Florence Sévoz, dans Un perdant magnifique, c'est que On est dans cette ambiance qu'on évoquait de fiction créée, mais vous nous ramenez à chaque fois à la réalité par ce que j'évoquais en tout début de cet entretien, c'est-à-dire par un titre de musique ou par un film qu'elle regarde. Et donc là, on se dit, ah, bah oui, non, là, on reprend pied dans le réel.
J'ai hésité, en fait, parce que j'avais peur que ce soit comme une coquetterie de mettre ces... Mais en fait, oui,
pas
ça
du
sert
tout.
Un peu de jalon.
D'ancrage, oui.
Ouais. Et puis, par exemple, tout simplement, je ne pouvais pas m'empêcher... voilà, pas résister à l'idée que Irène lise, découvre par exemple l'insoutenable légèreté de Kundera, que j'ai découvert à son âge et qui a changé ma vie. C'est vraiment, c'était une lecture, moi qui ne lisais que des romans plutôt classiques, des romans russes, des classiques. Voilà, comme Stefan Zweig, plus tard Dostoïevski, tout à coup il y a eu un choc de modernité incroyable avec la découverte de ce roman. Et puis en plus, c'était fou parce que j'avais pas tout à fait fini le livre quand Kundera a disparu. Mmh. Mmh. Alors, du coup, j'ai hésité, je me suis dit peut-être il faut l'enlever parce que. On va avoir l'impression que c'est...
Ah puis, non, moi je ne l'ai pas perçu comme ça du tout. Il y a Neil Young aussi avec The Needle and the Damage Done. Il y a comme ça des petites bulles. On se dit, ah, ah. Il faut... Oui.
Et aussi... oui, peut-être ça m'aidait aussi à me reconnecter à mes souvenirs, à cette époque et voilà, pendant un grand nombre d'années j'ai écrit pas mal de livres pour enfants et adolescents. Ça a été une chance, ma rencontre avec cette écrivaine et éditrice Geneviève Brisac, qui m'a...
Bien sûr,
l'école des loisirs, ça a été une époque extraordinaire et très très riche pour moi. Et là maintenant, avec les années, j'ai un petit peu plus de mal à me reconnecter à mes sensations d'adolescente. Alors en même temps, ça m'attire toujours. C'est drôle, c'est une période qui ne me laisse pas beaucoup de bons souvenirs. Je garde des sentiments vraiment très très mêlés, un peu comme dans le livre. Pour moi, c'est comme une période de marasme, une période embrouillée, pas confortable du tout. Et en même temps, j'y reste d'une certaine manière accrochée. Et voilà, peut-être j'ai eu besoin de certains marqueurs temporels pour m'y ramener.
Lisez Un perdant magnifique, c'est de Florence Sebos, c'est paru aux éditions de L'Olivier. Moi, j'ai vraiment énormément aimé ce livre, je pense qu'il restera. Mais vous évoquiez justement, Florence Sebos, le fait que vous avez écrit pour la jeunesse. Et là, vous allez vous orienter vers quoi ? Vers cinéma, écriture jeunesse, écriture adulte, entre guillemets, parce que je pense que... Ouais, bon. Alors, c'est quoi les projets ?
Alors déjà, avant d'écrire celui-là, je me suis dit, alors cette fois, c'est fini avec les enfants et les adolescents. Bon, malédiction, j'y suis retournée. Donc j'espère que la prochaine fois, je serai un peu plus du côté des gens de ma tranche d'âge. La jeunesse, c'est un peu compliqué pour moi parce que comme je n'ai plus d'éditrice à l'école des loisirs et je sais pas, moi j'aimais bien écrire pour quelqu'un.
Oui.
Et avoir des rendez-vous avec quelqu'un qui sait presque mieux que vous ce que vous pouvez faire, qui à la fois veille sur votre écriture, vous surveille gentiment, vous donne de l'enthousiasme et de l'énergie. Donc les livres pour enfants, peut-être je m'y remettrai un jour, mais pas pour l'instant. J'ai eu la chance, le hasard a fait que j'ai travaillé à plusieurs reprises pour le théâtre ces dernières années. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère pouvoir le refaire d'une façon ou d'une autre. Là, j'ai travaillé de façon très modeste en aidant à écrire des adaptations. Mm-hmm. Voilà, j'espère que ça va continuer.
Au plaisir de vous retrouver, en tout cas.
Et en tout cas, j'étais très heureuse de votre invitation. Et c'est moi qui vous remercie beaucoup, Alexandre.
Merci. Lisez Un perdant magnifique, Florence Sévaux, édition de l'Olivier. Toujours le travail de l'édition de l'Olivier. Et à bientôt, j'espère.
À la matina, appena alzata, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fa'. Oh mamma mia, oh che tormento, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni domani. Io ti invoco ogni domani,
partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno bel fiore, questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà.
C'est toujours Radio Libertaire, toujours 89,4 MHz, c'est toujours Idéo et Débat. Et nous venons d'entendre donc Florence Sévaux pour Un perdant magnifique, paru aux éditions de l'Olivier. Dans quelques instants, nous allons retrouver Laurence Tardieu pour un livre qui est paru aux éditions Robert Laffont et qui s'intitule Vers la joie, un livre très prenant, vraiment un chemin de vie et d'écriture. On la retrouve tout de suite. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de retrouver Laurence Tardieu, qui maintenant est chez Robert Laffont, et qu'on retrouve aujourd'hui pour un livre qui s'intitule « Vers la joie ». Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, même si ce qu'il raconte est parfois éprouvant. C'est un témoignage absolument superbe. Et le fait que ça s'intitule « Vers la joie » traduit un petit peu le chemin qu'on va découvrir au travers de ce livre. Alors merci Laurence Tardieu déjà d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Et avant de rentrer dans le cœur du propos, j'aimerais qu'on évoque, si vous voulez bien, la construction du livre. Comment le livre est bâti ? Parce que on a un prologue, ensuite on a une première partie qui est la guerre, on a l'après-guerre et on a quelque chose qui n'a plus de titre.
Oui, on a alors le prologue. Il me semblait indispensable parce que tous mes lecteurs n'avaient pas forcément lu mon livre précédent, D'une aube à l'autre, qui racontait ces 158 jours vraiment de guerre dure, j'allais dire, en bulles stériles, qui retraçait le combat entre l'annonce de la maladie, la leucémie de mon fils, Adam, et jusqu'à sa greffe et au sortir de l'hôpital le 24 août 2020. Donc ça, c'était mon précédent livre. Et donc, dans ce prologue qui ouvre vers la joie, je retrace de manière très factuelle ces faits. Voilà. Et ensuite, je suis très contente que vous me posiez cette question de la construction parce que ça a été la grande aventure de ce livre, entre autres. Ça a été vraiment une conquête, j'allais dire, pour trouver la bonne construction. Et en fait, j'ai imaginé ce livre comme une composition musicale. Donc chaque partie, effectivement, je vais y revenir, mais chaque partie a son propre son. Jusqu'à cette dernière partie, cette troisième partie qui s'envole. Et donc, en fait, au tout début, je n'ai pas trouvé cette première partie. C'est vraiment, moi vous savez, je ne construis jamais dans la tête mes textes. C'est par l'écriture, en tâtonnant, en cherchant phrase après phrase, que je finis par me frayer un chemin. Et donc, au tout début, j'ai commencé à écrire le tout début de la deuxième partie, c'est-à-dire ce moment où, quelques jours, quelques semaines après la sortie de l'hôpital, quelques mois, puisque je parle déjà de cet appartement ici dans lequel je vis aujourd'hui, je me retrouve avec mon fils et mes enfants dans une chaleur suffocante, et parce que je me rends compte qu'il faut essayer d'attraper quelque chose de ce flux, de ce nouveau flux de la vie que je n'arrive pas à nommer encore. Mais une fois écrit ce premier chapitre de cette deuxième partie, je me rends compte qu'il faut essayer d'attraper, de saisir les faits qui m'ont amené
jusque-là.
Et en fait, d'où cette première partie, dont chaque court chapitre commence par revenir aux faits, pour essayer de nommer cette succession d'événements qui se sont produits en fait à partir du moment où Adam est sorti de l'hôpital, donc dès le soir même de sa sortie de l'hôpital, et cette succession de faits à la fois qui se sont produits dans ma vie et à la fois des événements qui se sont produits dans le monde auquel on a tous assisté, pour tenter de les nommer, parce que je me rends bien compte que ces faits, je n'arrive pas encore à les intégrer. Voilà, donc j'expose cette première partie, et en fait le pari du livre, qui est un peu le pari de la seconde partie, c'est de tenter de me frayer un chemin par l'écriture, un chemin vraiment intérieur, par l'écriture, par le son, par tout ce qu'on arrive à attraper en écrivant, qui n'est pas ce qu'on arrive à attraper dans la vie, en fait. Ce chemin vraiment mystérieux, qu'on arrive à se frayer par le travail des mots, le travail de la langue, pour tenter non plus de me cogner au réel, comme je le fais dans la première partie, mais justement d'y adhérer, de le faire mien et d'y trouver du sens.
Mmh. Oui, moi, ce qui m'a frappé, Laurence Tardieu, dans ce livre qui s'intitule Vers la joie, qui est paru chez Robert Laffont, c'est que c'est un livre, en fait, sur la discontinuité.
Exactement.
Et la discontinuité dans tous les domaines. La discontinuité entre l'intime et le réel, la discontinuité temporelle, on sera amené à en parler, la discontinuité de la mémoire et des souvenirs que l'on convoque, et la discontinuité de l'écriture. Donc, au travers de ces différents axes, on s'aperçoit que ce qu'on pense être présent, en fait, ne l'est pas forcément. Ce qu'on pense couler de source, eh bien, justement, c'est pas comme ça.
Exactement, c'est très juste. Parce qu'en fait, on croit, vous voyez, cet adage « après la guerre vient la paix ». Moi, le moment, il y a cet instant que je raconte lorsque Adam et moi, nous sortons de l'enceinte de l'hôpital, et ce moment où on est un peu comme, voilà, au sortir de la caverne, quoi, ébloui par la lumière, par la présence des autres. Très très vite, je me rends compte que ça ne va pas être du tout la paix, et parce que je me rends compte que je ne vais pas retrouver la vie d'avant, qu'il y a toute une série de déplacements intérieurs, donc de déplacements à la fois dans mon sentiment de présence au monde, de présence aux autres, sentiment de déplacement, alors évidemment temporel, comme si le passé d'avant, ma vie d'avant, m'avait été dérobée. Et que donc, la mémoire aussi ne fonctionne plus de la même manière. Les souvenirs qui, avant, certains souvenirs qui étaient très vivaces, qui continuaient à m'irriguer, auxquels j'avais encore accès, vraiment, ont été comme mis de côté. Et non pas que je les ai oubliés.
Ils sont là.
Ils sont là, mon cerveau sait encore les retrouver. Mais il n'y a plus d'empreinte de vie entre eux et moi.
Il n'y a plus cette même capacité d'évocation.
Exactement, exactement. Et donc je m'aperçois, et très concrètement aussi, ce que je raconte, c'est le moment où je suis dans la rue, donc dans le livre je raconte par exemple en train d'aller chercher mon fils à l'école, avec son petit goûter, etc. Mais tout à coup, j'ai le sentiment de ne plus être du tout dans la rue. Je peux avoir le sentiment d'avoir été déplacée ailleurs, dans une forêt. J'ai un rapport très organique à ce moment-là aux éléments, aux choses. Je sens des odeurs très fortement. J'ai l'impression, voilà, je raconte dans le texte que j'ai l'impression de me rouler dans les feuilles, d'enlacer les arbres, alors que je suis en train de marcher dans la rue. Vous voyez, c'est comme si c'était ma carcasse qui marchait dans la rue, mais moi, je suis complètement ailleurs, dans un endroit où je fais complètement corps avec le monde. Ou bien, je peux avoir le sentiment, tout à coup, d'être à nouveau dans la bulle stérile et de revivre énormément de moments que nous avons vécus, de ressentir un geste, peut-être, qu'un soignant aurait eu sur mon épaule, d'être à nouveau complètement dans ces instants où Adam était au plus mal. Et donc, en fait, je vois bien qu'il n'y a plus de linéarité possible. Je ne peux plus m'inscrire dans un flux de la vie linéaire. Et c'est toutes ces séries de déplacements qui font qu'effectivement, je ne peux plus me raccorder avec un sentiment d'unité à mon présent et au temps et à ma vie et aux autres. Et en fait, c'est pour ça que j'écris le livre. En fait, le sentiment de nécessité vraiment profonde qui est là à l'origine de l'écriture de ce livre, c'est ça, essayer de retrouver c'est pas seulement du sens, c'est une présence à ma vie, aux autres, au temps.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you.
a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Just watch your soul. You're going to reap. Just watch your soul.
Oui, parce que vous évoquiez la dimension musicale, et c'est un peu ce que je ressens, comme si, d'une certaine manière, vous étiez désaccordé, oui, et que vous ayez perdu le là des autres. Ces autres qui continuent de vous dire, mais ça y est, c'est passé, maintenant tu peux reprendre le fil de ta vie, et qui sont, effectivement, vous êtes en dissonance.
Ah ben absolument, c'est ça, les autres disent, à juste titre, si je me mets à la place des autres, je comprends très bien, c'est passé. Voilà, un an, en août 2021, ils me disent « un an est passé, le plus dur, il y a beaucoup moins de risques de rechute, c'est passé ». Mais en fait, c'est pas passé. C'est-à-dire, je suis à nouveau toujours dans l'événement. Je suis toujours quelque part dans le tourbillon de l'événement. Je suis toujours dans le tourbillon de l'événement, alors que je vois bien que le temps avance. Et c'est ça qui est... cette expérience a été tellement radicale. En plus, alors peut-être faut-il le préciser, c'est Adam est arrivé à l'hôpital le 17 mars 2020, donc premier jour du premier confinement, donc avec le monde qui se refermait aussi autour de nous. Et ce dont je n'ai plus conscience, puisque moi après, j'étais tout le temps dans cette bulle, mais voilà. Et... je perds le fil de ce que je veux dire, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, cette difficulté
Être dans le temps des autres, à passer à autre chose.
Voilà, à passer à autre chose, à nouveau m'inscrire, oui, dans un flux temporel, avec le passé qui serait le temps de la maladie, le temps de l'hospitalisation, le présent qui serait le temps de la reconstruction d'Adam, et le futur qui serait une projection. Ça met... absolument impossible. Et je crois que voilà, c'est ça que je voulais dire. Je renoue avec. C'est vraiment cette expérience radicale, mais qu'on peut tous vivre de différentes manières. Peut-être qu'on vit tous à un moment donné dans la vie ce sentiment que la vie implose, qu'on perd tous ses repères, qu'on a été tout à coup déporté de sa vie, de tout ce qui faisait sa vie jusque-là. Moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti lorsque mon fils, lorsqu'on m'a annoncé que mon fils avait une leucémie. Et bien, lorsqu'on vit une expérience comme ça, où on est éjecté brutalement de son socle, on est projeté hors du monde, on est projeté hors du temps, et après, revenir à la vie, revenir au temps, et ben c'est une reconquête.
Oui, tout à fait. Vous évoquez le mot déporté, et à plusieurs reprises dans le livre, vous citez Simone Veil, et je crois que c'est important d'en parler.
Oui, alors tout à fait par hasard, je tombe sur les 5 heures d'entretien qui sont disponibles, je pense toujours encore sur le site de l'INA, que Simone Veil a donné, je ne me rappelle plus en quelle année, où elle raconte, elle raconte sa vie, hein, mais évidemment sur ces 5 heures, il y a un long temps sur sa déportation et sur le sortir des camps. Et je suis bouleversée. On la voit, on voit son visage aussi, et on voit combien, lorsqu'elle parle, elle est toujours là-bas. Donc ça, c'est déjà cette image, ce regard rentré qui me bouleverse et qui me happe et qui fait écho à quelque chose que je ressens. Et puis, évidemment, je dis bien dans le livre, et je le redis d'ailleurs aujourd'hui, c'est ce qu'elle a vécu ne peut en aucun cas se comparer à ce que j'ai vécu. Mais j'ai eu le sentiment presque honteux, parce que je sais bien que je n'ai... Voilà, encore une fois, on ne peut pas comparer ces deux expériences, mais ce qu'elle raconte d'elle au sortir des camps, j'ai l'impression que c'est exactement ce que je ressens moi, en étant là, à nouveau, en ayant été à nouveau rejetée, j'allais dire, sur le rivage de la vie. Et elle dit bien, elle dit, parce que la journaliste à un moment lui dit, est-ce que c'est le bonheur lorsque vous revenez des camps? Et elle dit non, c'est sentiment, tout est très très difficile. Et elle dit, j'ai un sentiment de déplacement. Mmh. Et ce mot déplacement qui est exactement ce que je ressens à ce moment-là me bouleverse. Et j'ai écouté, j'ai beaucoup écouté ces entretiens. Je raconte aussi ce moment où je réécoute 3 fois pour être sûre de comprendre, lorsqu'elle dit qu'il valait mieux que les enfants aient été déportés
avec leur mère.
Leurs parents. Ouais. Et alors que, quand on n'a pas connu cette expérience, on se dit heureusement que certains enfants ont été sauvés, qu'ils n'ont pas été déportés. Et en fait, à ce moment-là, je comprends. En tout cas, moi, ce que je comprends quand elle dit ça, c'est que... quelque chose du temps de l'amour est préservé lorsque les enfants sont déportés en même temps, puisque de toute façon, après, il n'y a plus de temps possible. Quelque chose de ce temps de l'amour. Mais vous voyez, ça montre bien comment... comment elle n'a pas pu revenir.
Oui, et puis vous citez l'exemple de Pérec.
Bien sûr, Pérec, que j'aime tant comme écrivain, et toutes ces tentatives qu'il a faites d'écriture, comme pour essayer
lui aussi
de trouver sa place. Et en atelier d'écriture, à chaque fois, je lis des fragments de W, Le souvenir d'enfance, qui est un livre si bouleversant. Et lorsqu'on a lu W, Le souvenir d'enfance, qu'on a lu quelques autres livres de Pérec et qu'on entend ce que dit Simone Veil, tout fait sens.
Oui, il y a aussi un élément qui, moi, m'a intéressée, c'est que vous évoquez donc le défilement du cours du temps, et vous évoquez cette étude qui a été faite sur les gens qui ont connu une expérience de mort imminente et leur rapport justement à la mort. Et cette question du rapport qu'on peut avoir avec notre mémoire, avec nos souvenirs, notre passé, et le rapport qu'ils ont, eux, avec l'après.
Oui, parce qu'il me semble, ce que je raconte, c'est que pendant toute cette période, parfois, je dois m'arrêter brusquement au cours de la lecture d'un article, ou bien même d'une chanson, ou bien d'un texte, parce que certains mots me bouleversent tellement que je dois arrêter. Et j'essaye de comprendre pourquoi dans le livre. Cet ébranlement de la langue, d'où ça vient? Alors, on y reviendra peut-être après, mais donc je raconte notamment que je tombe sur l'article d'un psychiatre qui parle de l'expérience de mort imminente. Et en fait, donc, je me dis, le souvenir, c'est ce qui a été. Hein, un souvenir, c'est quelque chose qui a un événement qui a été, qui ne sera plus. La mort imminente, c'est on est juste au seuil d'eux, donc le corps, on est encore vivant, et le psychiatre raconte ce tunnel, hein, en général, et les personnes
qui ont description, vécu, oui.
cette description avec une lumière rayonnante au bout du tunnel, et donc le corps, c'est ce temps-là, de l'autre côté du tunnel, hein, c'est le temps de ce qui ne sera plus. Et donc, j'ai le sentiment que, finalement, et le souvenir, et cette expérience de mort imminente, en fait, se rejoignent dans une sorte de hors-champ, comme je dis, dans ce temps de ce qui ne sera plus. Voilà. Parce qu'en fait, quand j'écris ce livre, je suis obsédée par cette question du temps, du présent, du passé, du futur. Comment essayer de retisser quelque chose qui fasse sens avec mon sentiment, justement, d'être tombée hors du temps. Donc, je cherche. Voilà. Et il y a des... Et c'est comme si j'étais, je sens en cherchant dans l'écriture qu'il y a quelque chose à comprendre de l'autre côté du souvenir, qu'il y a quelque chose à comprendre de l'autre côté de la mort. Parce que aussi, il faut dire quelque chose, et je crois que c'est ça qui est à l'origine de ce sentiment d'être tombé hors du temps, c'est qu'après cette expérience qui a duré donc 158 jours, et d'ailleurs, quand Adam est sorti de l'hôpital, il n'était pas du tout sauvé, hein, encore. Donc, il y a eu encore... d'ailleurs, là, il n'est pas encore considéré comme guéri. Il est en rémission, mais il y a eu encore, en tout cas, au moins une année très critique. Et donc, en tout cas, j'ai ce sentiment qu'il a tout changé pour moi. Contrairement à ce que j'avais cru pendant très longtemps, qu'il y avait d'un côté la vie, de l'autre côté la mort. Et que c'était parfaitement étanche. Que soit on était vivant, soit on était mort. Et qu'il y a... Et que ça communiquait pas, vous voyez. Eh bien, tout a changé depuis la maladie d'Adam. Je comprends, c'est comme si... Il y a ce fragment qui revient plusieurs fois dans le livre, que, en fait, que la mort est un voile de la vie, que la mort est là, en fait. Et ça veut dire quoi, est là? Ça veut dire... Ça dit aussi que être en vie est quelque chose... qui ne va pas de soi et qui tient à rien, et que c'est extraordinaire, donc que ça tient si peu de choses, qu'on soit là, qu'on soit vivant. C'est ça aussi la joie, ce vers la joie, c'est en fait presque cette stupeur de se dire mais on est en vie, on est là, quoi. Et mais donc quand vous ressentez ça si fort, avec ce sentiment que... Alors, puisque je raconte aussi que quand j'étais à l'hôpital, ma mère qui est morte il y a 26 ans, j'avais le sentiment qu'elle se tenait assise, qu'elle était là dans la chambre d'hôpital, qu'elle veillait sur nous, qu'elle nous regardait, qu'elle avait cette détermination que je lui connaissais dans le regard. Voilà, il n'y a plus du tout cette étanchéité entre le royaume des vivants et le royaume des morts. Et quand vous, ça, c'est une expérience qui m'a faite autre. Et qui a changé mon rapport, qui a tout changé, en fait. C'est ça qui, je pense, c'est cette expérience-là, vraiment, de cette incursion de la mort dans la vie, qui fait qu'il y a tous ces déplacements. Quand on sait ça, quand on a vécu ça, quand on l'a ressenti pour toujours, on ne se situe plus au même endroit.
Thank you.
Oui, et en plus, il n'y a plus les repères habituels. Mmh. Et vous évoquiez par exemple le langage, vous parlez également d'écriture, c'est-à-dire que ce qui permettait de tenir avant, d'exister, de faire sens, tout ça se dérobe parce que les mots... parce que les mots impactent directement, parce qu'on a l'impression de ne plus être dedans, parce que ce qu'on pensait acquis en termes d'écriture ne l'est plus du tout, on repart dans un monde. C'est comme si on était projeté dans un pays dont on ne connaît plus les mots.
Ah, mais exactement, c'est un exil. En fait, le temps de la guerre avait été un exil, c'est exactement ça, et le temps de l'après-guerre l'est aussi. Mmh. On est projeté dans un nouveau monde dont on ne connaît pas rien. Le mode d'emploi. Et les autres pensent que vous êtes à nouveau dans leur monde. Voilà. C'est ça qui est très compliqué. Et ce que je dis à un moment dans le livre, et je sais que j'ai eu des retours très forts, particulièrement sur ce paragraphe de gens qui ont connu des guerres, qui n'étaient pas la même que la mienne, mais c'est que entre personnes qui avons vécu ça, on se reconnaît. On se reconnaît.
Ouais. Et c'est pour ça que le travail d'écriture est si difficile et en même temps si important. Et sans dévoiler tout le livre, Laurence Tardieu, ce qu'on peut dire, c'est que la vie, c'est le présent, c'est le corps, et c'est ce qui passe par le corps. Et vers la joie, c'est aussi ça. C'est aussi se réapproprier son chemin par la sensorialité. Et ça va se faire petit à petit. Il y a Nice, il y a la mer, il y a les odeurs, il y a ces petites bulles de parfums, de toucher, de sens qui éclatent comme ça. Il y a ce qui est à côté de moi, cette merveilleuse petite chatte avec toute sa douceur qui vous semblait improbable au départ et qui pourtant maintenant a une importance très très grande. Et puis la vie va suivre son chemin et d'autres éléments vont refaire partir la joie.
Oui, mais c'est merci de le dire si bien, c'est ça. C'est le corps qui est à la fois dépositaire de cette joie, mais dépositaire aussi de ce renouveau possible par l'éveil à la sensation. Et d'ailleurs, c'était presque une difficulté au départ. J'avais le sentiment de ressentir beaucoup plus qu'avant. Vous voyez, même certaines... Enfin, on ne peut pas trop ressentir, sauf que parfois, dans la vie sociale, entre guillemets, c'est un peu compliqué. Vous êtes là. Ça m'est arrivé justement pour le précédent livre. Je me souviens d'un entretien à la radio et j'ai écouté de la musique et ça me coupait le souffle, quoi. Donc l'émotion et voilà, c'est de ressentir encore plus intensément tout. Et aimer, en fait, ça a été le chemin vers la joie. Exactement, parce que en entrant, lorsque vous ressentez, vous faites corps avec ce que vous ressentez. Hein. Donc vous faites corps avec la nature qui vous environne, les arbres, les lumières.
C'est là.
C'est là, voilà, vous y êtes, vous y adhérez. C'est ça la joie, en fait. Hein. C'est ce sentiment à l'instant même, au temps présent, de faire totalement corps avec le monde dans lequel vous êtes. Et là, il n'y a plus d'interrogation.
Il n'y a plus de doute.
Il n'y a plus de doute, c'est là, en fait. Et c'est... Alors, je cherche pendant tout le livre, mais le moment où je suis enfin en mesure de... comme je dis, d'un moment de... Tout à coup, l'armure qui tombe à terre. Et donc, ressentir à nouveau, eh ben, c'est ce moment-là où, comme de par hasard, comme dirait mon fils Adam, comme de par hasard, je me raccorde à un nouveau temps.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est une expérience. Je raconte, par exemple, ce moment où je vais voir le
Boléro de Ravel.
C'est un morceau et une pièce scénographique que j'adore, comme beaucoup de gens, que j'avais déjà vu plusieurs fois. Mais à cet instant, ce soir-là, dans la salle, il s'est vraiment passé quelque chose où j'ai eu l'impression, finalement, de retrouver mon corps. Voilà. Il s'est passé quelque chose entre le danseur extraordinaire, Audric Pesard, Je suis contente de le citer, de donner son nom. Et moi, comme si, à ce moment-là, non seulement je retrouvais mon corps, mais la joie était telle qu'elle me permettait de me déployer, de me déployer dans la salle vers lui, quelque chose, et au-delà de la salle et au-delà du monde. Et là, quelque chose s'est remis à sa place, s'est trouvé. Voilà. C'est un temps retrouvé, d'ailleurs. Le temps de la joie, c'est un temps. Et ce n'est pas le temps d'avant. Non. C'est un temps qui est retrouvé, c'est-à-dire c'est un temps où le passé est éclairé à la hauteur des épreuves qu'on a vécues. Et donc, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se produire. Je raconte plein de choses, mais par exemple, ce moment où je raconte dans les rues de Montpellier, oui. Où ça a été vraiment une expérience incroyable, sensorielle, où tout à coup j'étais seule un petit matin dans ces rues de Montpellier, je me rendais à un atelier d'écriture que j'animais, et tout à coup comme si le temps s'était ouvert ma mère, donc morte il y a 26 ans, était en train de faire exactement ce même chemin, elle se rendant à la faculté de médecine où elle était de pharmacie où elle était étudiante à ce moment-là, et que j'étais à la fois elle et à la fois moi, quoi. Qu'il y avait eu une sorte de le temps de 1961 et le temps de 2023 ou 2024 était rentré en collision, quoi. Mmh. Ça, c'est des choses, une expérience qui n'aurait pas été possible avant.
Oui, il y a cette espèce de collision, et puis il y a un élément aussi que vous évoquez qui, je pense, est important, c'est le phénomène des neurones miroirs.
Oui.
Parce que qu'est-ce qui passe d'un individu à d'autre, et quand est-ce que ça passe? Et ça peut passer dans l'immédiat, mais ça peut passer dans le
absolument,
temps aussi.
C'est vrai, vous avez raison. Hein. Moi, j'ai découvert les neurones miroirs l'année dernière, je n'avais jamais entendu parler avant, et ce phénomène par lequel en fait on ressent,
partage.
Voilà, on partage même, voilà, les émotions, le ressenti de l'autre lorsqu'on est très connecté à l'autre. Et comme vous le dites très justement, c'est pas forcément dans le même instant, non. Mais ça peut être dans un temps, dans deux temps, disjoints, ouais, en fait, a priori disjoints, mais qui du coup ne sont plus disjoints. Voilà, c'est fascinant d'écrire parce qu'on on se fraye un chemin et tout prend sens.
Oui.
Tout prend sens.
On va laisser nos auditeurs le découvrir, et découvrir aussi le chemin d'écriture de la petite fille qui était dans sa chambre et qui avait pris une feuille de papier. Ça s'appelle Vers la joie, c'est de Laurence Tardieu, c'est paru chez Robert Laffont. Vraiment merci pour ce livre et pour cette rencontre. Et puis question rituelle dans cette émission. Et alors, vos projets maintenant? La vie.
Alors, les projets, c'est d'abord vivre.
Oui, ouais, la vie.
Célébrer la vie. Voilà. Et ne, sans perdre la joie. Voilà. Mais j'attends, alors vous savez, j'attends qu'un sentiment de nécessité d'un nouveau projet d'écriture m'attrape comme ça, m'empoigne. Ça, ce sont les meilleurs moments. Et quand on sent, même si rien n'a été encore écrit, puisqu'encore une fois, alors moi en plus, je ne peux jamais élaborer dans la tête mes prochains textes, mais il suffit d'avoir une fulgurance comme ça, de sentir qu'il y a quelque chose qui est absolument nécessaire. Et là, je sais que même si ça prend 2, 3, 4, 5 ans, un livre va s'écrire. Donc j'attends, je suis dans cette attente de reconnaître quelque chose.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Laurence Tardieu.
Merci
beaucoup.
Merci à vous.
fin de cette émission Idéaux et débats du jour, au cours de laquelle nous avons parlé donc du livre de Florence Sévaux, Un perdant magnifique, paru aux éditions de l'Olivier, et de Vers la joie de Laurence Tardieu, paru chez Lafon. Voilà, nous on se retrouve dans 2 semaines, on y retrouvera Jean-Luc Marty, et puis il y a d'autres auteurs à venir dans cette émission, comme d'habitude. Mais d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire et portez-vous bien.
You're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. And they hit you at school, they hate you if you're clever, and they despise a fool, till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. We'll be right back.
Libertaire, Radio Libertaire.
Conscrit qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour